Peut-être un petit mot avant de commencer donc mon enseignement sur ce que nous allons vivre. Cette année, on va aborder la question des rapports entre la foi et la raison, non pas dans l'abstrait, mais à partir de certaines figures bien concrètes de l'histoire de notre Église. Les chrétiens, nous vivons sur un tas d'or, en fait. Nous avons un immense héritage, mais bien souvent, nous sommes peu conscients de la richesse de cet héritage. Alors, durant ce forum, on va présenter différentes figures qui sont, vous allez voir, assez différentes, enfin, très typées, vraiment différentes entre elles, qui on dessine comme une vaste fresque des rapports entre la foi et la raison. Et on va voir qu'à travers l'histoire de l'Église, l'Esprit Saint a suscité des saints qui ont exercé leur raison pour répondre aux grands défis de leur temps. Mais que ces réponses qu'ils nous ont données sont encore valables pour aujourd'hui. En ces temps de crise que nous traversons, nous avons des lumières pour traverser ces ténèbres. Ces lumières, ce sont ce qu'on appelle les docteurs de l'Église, qui sont aujourd'hui une trentaine, plus de 35, et qui ont été déclarés docteurs de l'Église parce que leur doctrine reste encore aujourd'hui valable, inspirante, nourrissante pour nous aujourd'hui. Alors, nous allons introduire cette réflexion sur les docteurs de l'Église, sur ces grandes figures du rapport entre la foi et la raison, en portant tout d'abord notre attention sur les premières générations chrétiennes. Ces générations qui ont reçu des apôtres le trésor de la foi et qui ont eu pour mission de transmettre la foi au monde païen de l'Antiquité. Il nous est bien difficile de nous représenter cette période fort éloignée de la nôtre. Dans les années 30, l'Antiquité devient le théâtre d'une étonnante rencontre entre la pensée chrétienne, la jeune religion chrétienne, et le monde païen. Une rencontre souvent conflictuelle, mais parfois harmonieuse et féconde. Les points de rencontre entre le paganisme et le christianisme ont été très nombreux, puisqu'ils concernaient tous les lieux de la culture antique. Par exemple, les lettres, l'architecture, l'éducation. Cependant, l'un de ces points de rencontre, probablement le plus emblématique, a été la philosophie, puisqu'on la considérait alors comme le sommet de toutes les autres sciences et qu'on voyait en elle la manière la plus haute d'exercer la raison. Ainsi, l'une des grandes questions que se posèrent nos frères chrétiens des premiers siècles était de savoir s'il était possible, ou tout simplement s'il était utile, de faire de la philosophie à la manière des païens, à la manière des Grecs, qui ne connaissaient pas la révélation du Christ. Ce problème, qui est étranger à nos problèmes actuels, est en fait profond. Car il s'agissait de se demander comment continuer à exercer la raison que Dieu nous a donnée après la révélation. Un chrétien peut-il réfléchir à la manière d'un païen? Est-ce que la foi n'introduit-elle pas une radicale nouveauté dans la manière d'exercer son intelligence? La réponse à ces questions n'allait pas de soi. Et de fait, comme saint Jean-Paul II l'a écrit dans son encyclique sur la foi et la raison en 1998, la rencontre du christianisme primitif avec la raison des Grecs, je cite, ne fut ni immédiate, ni facile. Dans ce premier enseignement, nous allons donc chercher à montrer comment les premières générations de chrétiens ont relevé le défi de réconcilier la foi chrétienne et la raison des païens. Un défi qui, en autant où renaît le paganisme, est redevenu d'actualité. Tout d'abord, nous allons essayer de nous mettre à la place des premiers chrétiens en cherchant à comprendre les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Dans l'Évangile, notre Seigneur affirme qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Or, il faut ici noter que la philosophie antique se pensait également comme un chemin initiatique ayant pour fin la découverte de la vérité, et ce en vue d'une vie heureuse. De fait, la philosophie antique n'était pas une discipline académique comme une autre, mais elle était considérée comme un moyen pour acquérir une sagesse à la fois théorique et très existentielle. Les philosophes se présentaient facilement comme les thérapeutes, les médecins des âmes. La philosophie était à leurs yeux une voie de salut et de béatitude, un exercice de vie qui impliquait toute l'existence. Sans exagérer, on pourrait dire qu'on entrait alors dans une école philosophique comme on entrerait aujourd'hui dans la vie religieuse, pour son salut. On comprend dès lors que la question de l'utilité et même de la possibilité de pratiquer la philosophie à la manière des Grecs se soit posée aux chrétiens avec une particulière intensité. Le Christ, lui qui est le Logos, la raison, la sagesse de Dieu dont parlent saint Jean et saint Paul, n'était-il pas venu répondre aux attentes des philosophes qui désiraient connaître la vérité et recevoir le salut? Dès lors, la vie chrétienne, qui comprend comme la philosophie une connaissance, une morale, une libération, n'était-elle pas la véritable philosophie? La sagesse en personne s'étant révélée, pouvait-on continuer à la rechercher et plus largement à réfléchir comme si rien ne s'était passé? Ce problème de la compatibilité entre foi chrétienne et pensée païenne est déjà présent comme en filigrane dans le Nouveau Testament et particulièrement dans les lettres de saint Paul. Car saint Paul était un homme cultivé qui connaissait non seulement la loi juive mais aussi la culture grecque, alors dominante dans le bassin méditerranéen. Par ailleurs, depuis sa conversion, il était en contact incessant avec le monde des Grecs, ce qui transparaît dans ses lettres adressées aux premières communautés chrétiennes, comme celles adressées aux chrétiens de Corinthe, de Philippe ou de Thessalonique. Cela étant, si l'on cherche dans la Bible une mention explicite faite à la philosophie et aux philosophes, nous serons déçus. Seuls deux lieux mentionnent explicitement le terme philosophie et philosophe. Tout d'abord, le discours de saint Paul aux philosophes stoïciens et épicuriens à Athènes, à l'Aréopage, qui nous est rapporté dans les Actes des Apôtres, dialogue qui se conclut par un échec lorsque saint Paul vient à évoquer l'incarnation et la résurrection du Christ. Le deuxième passage où on trouve le mot philosophie dans la Bible est un bref verset de l'épître de saint Paul aux Colossiens, chapitre 8, verset 2. Je le cite. Prenez garde qu'il ne se trouve quelqu'un pour vous réduire en esclavage par le vain leurre de la philosophie, selon une tradition toute humaine, selon les éléments du monde et non selon le Christ. Sur la base de ces deux textes, il pouvait donc sembler aux premiers chrétiens que saint Paul avait opposé la philosophie, la manière dont les Grecs réfléchissaient, et la foi chrétienne. Et plus largement, la foi et la raison. Avoir la foi dans le Christ, semblait impliquer pour saint Paul d'abandonner l'usage de la raison, du moins telle qu'elle était pratiquée par les Grecs. De fait, si l'on cherche à approfondir ce que dit saint Paul, il s'agit là d'une fausse opposition, car saint Paul, juif de naissance et de cœur, souscrit bien évidemment à l'enseignement biblique dans son intégralité. Or, dans la Bible, Dieu enseigne que, par sa bonté, il s'est manifesté à tous les hommes à travers l'œuvre de la création. À partir de la création, donc, tous les hommes sont objectivement capables, en remontant par l'intelligence des effets visibles à leur cause invisible, jusqu'à la connaissance de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, nous voyons saint Paul reprendre la même doctrine. Il cherche alors à montrer que tous les hommes ont péché et que tous doivent recevoir la grâce de Dieu pour être sauvés. Et à ce moment-là, il invoque une idée déjà présente dans l'Ancien Testament. Voilà ce qu'il dit. Il affirme que les païens, alors qu'ils connaissaient Dieu par leur intelligence, parce que Dieu s'était révélé à travers les œuvres de la nature, se sont enorgueillis dans leur prétention à posséder la sagesse. Ils sont devenus fous, dit saint Paul. Alors ils ont déchu dans l'idolâtrie, puis dans la débauche, et tout particulièrement dans le péché d'homosexualité. Saint Paul, dans ce passage de l'Épître aux Romains, supposait donc que les païens étaient capables d'une certaine connaissance de Dieu fondée sur sa manifestation dans la création. Dieu s'est manifesté dans sa création visible, laquelle peut être considérée comme une révélation de Dieu et de son amour pour les hommes. Cette première révélation appelée à être reçue par les lumières de la raison naturelle. Mais pour saint Paul, cette première révélation n'a pas été reçue en raison du péché originel, comme l'épisode de l'aréopage le montre bien. Aussi, étant donné l'échec de cette première manifestation de Dieu par une voie naturelle, c'est-à-dire par la nature des choses et par celui de l'intelligence naturelle, Dieu va se révéler par un moyen nouveau et déroutant, un moyen surnaturel, qui supposera d'être accueilli comme une grâce dans la foi. Ce moyen nouveau, c'est l'incarnation et la rédemption du Christ par la croix. Voilà donc la manière dont Dieu va se révéler aux hommes et leur révéler sa sagesse, par le message surnaturel de la croix que l'on reçoit par la foi. Aussi, en affirmant que la sagesse de la croix est une folie aux yeux des sages de ce monde, il faut bien comprendre que saint Paul ne rejetait pas la sagesse naturelle des Grecs, mais l'attitude de ceux qui se prétendaient sages mais qui ne l'étaient pas, tels les philosophes d'Athènes qui avaient refusé d'accueillir sa prédication. C'est à cette lumière aussi que nous comprenons le bref verset que nous citions tout à l'heure de l'Épître aux Colossiens sur le vain leurre de la philosophie. Car dans ce verset, ce n'est pas tant de la philosophie en général ou de la sagesse humaine en général dont parlait saint Paul, mais de la philosophie ou de la sagesse telles qu'elles étaient pratiquées par les philosophes de son temps, ceux-là même qui avaient rejeté la grâce et la révélation du Christ au nom de leur soi-disant sagesse. Autrement dit, saint Paul n'a pas dévalorisé la sagesse des Grecs, pas plus qu'il ne l'a opposée à la sagesse de la croix. Mais parce que le péché originel a affaibli l'homme, qui ne voit plus dans la création une révélation de Dieu, saint Paul rappelait la nécessité de s'ouvrir à la foi. Dieu lui-même s'est manifesté dans l'incarnation et la rédemption. La sagesse de la croix réénonce et approfondit un message qui était déjà contenu dans la création. Par le biais de la foi, Dieu est venu au secours d'une raison devenue malade par le péché. Le grand message de saint Paul est donc que la foi ne supprime pas la raison, mais au contraire, que la foi vient la guérir et l'élever à des sommets inespérés, la connaissance du mystère intime de Dieu. Mais il faut le reconnaître, ce message n'était pas facile à comprendre et à accueillir. Et c'est pourquoi certains chrétiens, qui étaient plongés dans le monde païen, s'opposèrent au nom de leur foi à la philosophie des Grecs. Nous lisons par exemple, sous la plume d'un célèbre auteur chrétien du IIe siècle, Tertullien, des paroles peu amènes au sujet des philosophes grecs. Je cite « Quelle ressemblance y a-t-il entre un philosophe et un chrétien ? Entre un disciple de la Grèce et un disciple du ciel ? Entre celui qui travaille pour la gloire et celui qui travaille pour la vie ? Entre celui qui n'agit qu'avec de belles paroles et celui qui accomplit de belles actions ? Entre celui qui édifie et celui qui détruit, entre un corrupteur de la vérité et celui qui la rétablit dans sa pureté, enfin entre celui qui en est le voleur et celui qui en est le gardien. » Parmi les autres griefs que les chrétiens ont pu mettre au compte de la philosophie, celle-ci leur semblait à l'origine de toutes les hérésies, ou encore elle leur semblait un tissu d'idées contradictoires. Et pour ces raisons, certains chrétiens, peu nombreux, en vinrent jusqu'à proclamer l'incapacité de la raison humaine à parvenir à la vérité. Pour eux, la foi en la révélation chrétienne suffisait. La raison devait être abandonnée. En s'opposant à la philosophie, ces auteurs voulaient manifester la primauté de la foi sur la raison. Pour eux, la philosophie n'avait plus lieu d'être exercée car la sagesse en personne s'était révélée de manière complète et définitive dans le Christ. Tout bien considéré, que peut ajouter l'esprit humain laissé à ses propres forces par rapport à la révélation de la vérité elle-même en personne ? Le salut, la guérison de l'âme que cherchent les philosophes, pouvait-il être le fruit des efforts de l'homme sans la grâce ? Le Christ et saint Paul avaient clairement affirmé le contraire. Pour ces premiers chrétiens donc, je le répète, peu nombreux, continuer à réfléchir à la manière des Grecs était donc une marque d'orgueil. Le refus d'être éclairé par une lumière supérieure venant de Dieu. La raison devait maintenant laisser place à la foi. En réaction contre cette prétention de certains chrétiens à détenir la sagesse, s'opposèrent plusieurs philosophes de l'Antiquité. Ils se considéraient comme les dépositaires d'une grande partie du patrimoine spirituel grec, qu'ils estimaient remis en question par les chrétiens. Et ils vont donc développer une critique acérée de la foi chrétienne. On peut penser par exemple au philosophe Porphyre, ou encore à l'empereur Julien l'Apostat, qui fut l'auteur d'un ouvrage intitulé « Contre les Galiléens ». De manière générale, ces philosophes païens reprochaient au christianisme son irrationalité. Plus particulièrement, tout comme d'ailleurs les philosophes de l'Aréopage face à saint Paul, ils contestaient que Dieu ait pu s'incarner et qu'il soit ressuscité, puisque ces deux affirmations leur paraissaient remettre en cause la transcendance foncière de la divinité. Mais si l'on cherche un bel exemple de l'opposition du paganisme à la foi chrétienne, nous pourrions nous tourner vers un dénommé Cels, un philosophe du IIe siècle. Dans son livre intitulé « Le discours vrai contre les chrétiens », Cels écrit de la doctrine chrétienne qu'elle n'est pas fondée en raison, qu'elle est, je cite, « d'une puérilité qui dépasse les bornes ». En effet, affirme-t-il, comment le Dieu des chrétiens a-t-il pu être abandonné et crucifié ? Était-ce digne, écrit-il, d'un Dieu de se laisser lier, emmener comme un criminel ? Il convenait bien moins encore qu'il fût abandonné, trahi par ses familiers, qui le suivaient comme un messie, fils et envoyé du grand Dieu. Et Cels continue. Comment ce Dieu pourrait-il d'ailleurs être ressuscité ? Et pourquoi serait-il descendu sur la terre ? Serait-ce dans le but d'apprendre ce qui se passe parmi les hommes ? Mais n'est-il pas omniscient ? Comme l'écrit saint Paul, l'annonce d'un Messie crucifié était bien une folie pour les païens. En ce sens, on a pu souligner que l'un des premiers blasphèmes dont nous ayons la trace porte sur Jésus, le crucifié. Sur la colline du Palatin, à Rome, là où se trouvait autrefois le palais des empereurs, existe encore aujourd'hui un bâtiment appelé Pédagogium, qui était un lieu où se retrouvaient les serviteurs du palais. Sur un mur de ce bâtiment se trouve un graffiti qui représente un crucifié devant lequel une personne est agenouillée et où il est écrit en grec « Alaxémenos adore son Dieu ». Mais le crucifié devant lequel prie cet Alaxémenos a tragiquement une tête d'âne. C'est un blasphème écrit, un blasphème peint pour dire l'indignation du monde païen devant un Dieu qui se révèle dans le crucifié. Cela étant, les critiques des philosophes contre le christianisme ne vont pas rester sans réponse. Car certains chrétiens, désireux de défendre leur foi face aux philosophes, vont s'employer à les réfuter. Et c'est alors la naissance de ce que l'on appellera l'apologétique, ou défense de la foi, qui fut l'œuvre de certains pères de l'Église, comme saint Justin, martyr du IIe siècle, Tatien, son disciple, Athénagore ou encore Aristide. En réfutant les objections venues des païens, ces chrétiens cultivés voulaient manifester la rationalité du christianisme. D'abord limité à la défense de points précis, leur apologétique aboutit dès le IVe siècle à des exposés complets et raisonnés de la foi chrétienne, de véritables sommes théologiques avant l'heure. Ainsi, par souci de répondre aux objections des païens, les chrétiens ont été amenés à exposer leur foi dans des termes rationnels. Or, il se passa à ce moment-là de l'histoire quelque chose de tout à fait remarquable. Afin de se défendre, les pères de l'Église affirmèrent non seulement que la foi chrétienne n'était pas irrationnelle, mais également qu'elle était plus rationnelle encore que la philosophie des païens. Ainsi, certains chrétiens tels saint Justin ou saint Clément d'Alexandrie en vinrent à revendiquer le statut de philosophe. Pour eux, seuls les disciples de Jésus, le Verbe incarné, étaient les vrais philosophes, les vrais amants de la sagesse. De fait, en qualifiant leur religion de philosophie, et en se présentant comme les vrais philosophes, ces auteurs pensaient probablement ne faire que répondre à des objections, comme une sorte d'argument bien trouvé dans un débat. Mais ce faisant, ils ouvraient la voie à une intégration de la philosophie grecque, de la pensée des Grecs, dans la foi chrétienne. Car en se donnant le titre de philosophe, ils manifestaient que la religion chrétienne est une religion du logos, une religion de la raison, parce que Dieu s'est révélé comme le Verbe de Dieu, le logos, la raison divine. Et qu'en se révélant ainsi, Dieu donnait à la raison humaine toutes ses lettres de noblesse, manifestant par là que toute activité rationnelle, lorsqu'elle est droitement menée, guide, nous conduit vers la vérité de Dieu. Autrement dit, en se considérant comme les disciples du Verbe de Dieu, ces chrétiens vont donc peu à peu être conduits à envisager les philosophies païennes comme une sorte d'introduction propédeutique au christianisme. La philosophie païenne était fausse en partie, mais elle était vraie aussi, en partie. Son étude pouvait donc être considérée comme une aide afin d'accueillir le message de la foi. C'est ce que Saint Clément d'Alexandrie, un auteur du 2e, 3e siècle, affirmera dans son ouvrage intitulé « Les Stromates ». Voilà ce qu'il dit. « J'admets que la philosophie grecque ne saisit pas la vérité dans son ampleur. J'admets encore qu'elle est radicalement impuissante à faire pratiquer les commandements du Seigneur. Il n'en reste pas moins qu'elle prépare la voie à la doctrine royale par excellence. Par quelques biais, elle assagit l'homme, elle préforme son caractère, elle le prépare à se laisser pénétrer par la vérité. » Envisagée à la lumière de la foi, la philosophie grecque va donc apparaître aux yeux de certains comme un moyen inspiré par Dieu afin que les païens se préparent à recevoir l'évangile. Pour saint Justin, par exemple, le Verbe de Dieu a travaillé le cœur des païens avant la venue de Jésus. Saint Clément voyait quant à lui dans la philosophie, à titre d'hypothèse du moins, un don de Dieu équivalent pour les Grecs au don de la loi pour les Juifs, une sorte d'Ancien Testament pour les païens. La raison des païens n'était donc pas mauvaise en elle-même, loin s'en faut. Purifiée par la foi en la révélation de la sagesse qu'est Dieu, elle apparaissait plutôt comme un moyen pour s'élever jusqu'à Dieu qui est raison et esprit. Envisagée dans cette perspective nouvelle, la philosophie va donc peu à peu être intégrée dans l'éducation des jeunes chrétiens. Ainsi, pour Origène, l'une des figures les plus importantes du christianisme grec de l'Antiquité, l'acquisition de la sagesse divine, celle qui est contenue dans les Saintes Écritures, présupposait l'exercice de la sagesse humaine, notamment celle des philosophes. Très concrètement, le jeune chrétien, le chrétien cultivé qui voulait approfondir sa connaissance des Écritures, devait, dans l'école d'Alexandrie dirigée par Origène, étudier les textes des païens dans ce qu'ils avaient de meilleur, afin, comme le disait Clément, de préformer son esprit pour être capable de comprendre la sagesse révélée. Mais Origène était très clair aussi. Si la sagesse s'arrête à la recherche d'un bonheur purement mondain, si elle se limite à l'horizon de ce monde, elle devient folie. Autrement dit, la raison ne devait pas s'enfermer sur elle-même, mais s'ouvrir dans la foi à des horizons qui la dépassent. Concluons. Notre parcours historique nous a conduit à comprendre que c'est au nom de leur foi en Dieu qui est Logos, tel que saint Jean nous le révèle dans le prologue de son évangile, que les chrétiens vont peu à peu devenir les défenseurs de la raison. Cela étant, ils ont intégré l'héritage de la pensée païenne dans la mesure où celle-ci disposait l'intelligence à accueillir la foi ou à l'approfondir. Ainsi, pour nombre de pères de l'Église, l'exercice de la raison naturelle était une bonne chose. Avant le Christ, elle a préparé les hommes à accueillir la sagesse. Après le Christ, elle doit servir à mieux comprendre la sagesse surnaturelle manifestée dans les Saintes Écritures, la sagesse de la croix dont nous parle saint Paul. Autant dire que, après le Christ, la raison doit reconnaître ses insuffisances, Elle doit reconnaître humblement que seule la foi donne la véritable et complète sagesse. Cependant, ce dépassement de la foi, dans la foi, ne se fait pas par contradiction, par une négation de la raison, mais en l'assumant et en achevant pleinement son désir de connaître Dieu. Bien des siècles plus tard, Saint Jean-Paul II fera sienne la pensée de ses premiers frères chrétiens lorsqu'il comparera la foi et la raison aux deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever jusqu'à Dieu. Et c'est ce que la suite de notre forum va maintenant illustrer.